Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis bien content d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu et partager quelques pensées qui, j'espère, par le Saint-Esprit, eh bien, saura toucher votre cœur, vous édifier, vous encourager et vous pousser, eh bien, de l'avant. Alors, je vous propose de prendre un texte de la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 4, jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions Dieu encore. Oui, mon Dieu, mon Père, ce n'est pas des paroles d'hommes qui pourront nous faire aller de l'avant, mais c'est l'action de ton esprit qui, prenant cette parole, eh bien, la fera pénétrer dans notre cœur. C'est ton esprit qui nous y rendra sensibles, qui permettra que nous puissions l'appliquer à nous-mêmes, l'appliquer à notre vie. Et c'est justement ce que je veux te demander, ô mon Père, c'est que, eh bien, par ton esprit, tu parles à nos cœurs ce matin. Glorifie-toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est la salutation que l'apôtre Paul adresse à cette église de Corinthe. Et vous n'avez peut-être pas en tête les différentes salutations que l'apôtre Paul adresse aux différentes églises, mais celle-ci est un peu particulière, assez différente des autres salutations que l'apôtre Paul adresse aux autres églises. Alors je vous invite à garder, si je puis dire, le nez, vos yeux sur le texte que nous venons de lire, et je vais vous lire, eh bien, d'autres salutations que l'apôtre adresse à d'autres églises, et peut-être vous-même déjà vous vous rendez compte d'une certaine différence. Il y en a certainement plusieurs, mais à mes yeux, il y en a une qui est flagrante. Alors, gardez les yeux un peu sur le texte que nous venons de lire, et je vais vous lire en parallèle plusieurs salutations que l'apôtre Paul adresse à d'autres églises. Et la première, je vous lis celle qu'il adresse à l'église de Colosse. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Gardez toujours les yeux sur notre texte que je vous ai lu, et maintenant je vous lis celle adressée aux Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je vous lis maintenant celle aux Romains. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de tous, de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et je terminerai avec celle des Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir peut-être une différence qui me semble en tout cas à mes yeux importante, c'est que dans toutes les salutations que je viens de vous lire, eh bien, l'apôtre Paul rend grâce, mais il rend grâce parce que leur foi est renommée, parce qu'ils participent à l'œuvre de Dieu et il se passe des choses. Et maintenant, vous reprenez le texte que nous allons lire et vous vous rendrez compte qu'il ne fait pas référence à leur grande foi, à leurs œuvres diverses et variées. Il souligne ce que Dieu leur a donné. Et c'est, enfin, moi, ça m'a frappé. Pourquoi ces autres églises, ils relèvent leurs œuvres diverses et variées et pas l'église de Corinthe? Si vous avez déjà lu l'épître aux Corinthiens, vous savez, oui, effectivement, avec tous les problèmes qu'il y a dans cette église, c'est difficile de relever, eh bien, ces œuvres. Elles existaient, j'en suis convaincu. Mais tous les problèmes qu'il y avait dans cette église couvraient très largement, eh bien, toutes les œuvres qu'ils pouvaient faire et qui étaient aussi à la gloire de Dieu. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que l'apôtre Paul, eh bien, a été informé de différents problèmes de cette église, et avant même, eh bien, de traiter ces différents sujets, il rend grâce à Dieu, non pas pour leurs œuvres, mais pour ce que Dieu leur a donné. Et je trouve que c'est important de se le rappeler. Vous savez, quand un frère, une sœur s'éloigne du Seigneur, on a envie tout de suite, eh bien, de lui dire ces quatre vérités, de le reprendre et tout ça. Il serait bon des fois de se rappeler, eh bien, ce que le Seigneur lui a accordé. Déjà, premièrement, lui rappeler ce que le Seigneur lui a accordé. Et c'est déjà une manière, déjà pour soi-même, que de se rappeler ce que le Seigneur lui a accordé pour se rappeler que quand il va falloir parler des sujets plus délicats, ne sera bien se rappeler que le Seigneur lui a accordé plein de choses. Mais c'est en même temps, le fait que l'apôtre Paul rappelle ce que Dieu leur a accordé, c'est déjà une exhortation importante. Avant même de traiter les sujets particuliers, il leur rappelle ce qu'il leur a donné. Et c'est déjà une grande exhortation. Et c'est ce que je me propose avec le texte de ce matin de partager avec vous. Dieu nous a tant donné. Dieu nous a tant donné. Et j'aimerais à la fois porter notre regard, si je puis dire, sur le passé, et pas forcément le passé lointain, c'est peut-être le passé d'hier, et en même temps nous porter vers l'avenir. C'est pourquoi Dieu nous a tant donné, qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? C'est là le titre de mon message. Dieu t'a tant donné, qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Et j'aimerais relever, eh bien, la première chose qu'il relève, l'apôtre Paul, dans sa... dans ses actions de grâce, c'est la grâce du salut. Il loue Dieu, eh bien, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Voilà la première chose. La grâce d'être pardonné, la grâce d'être purifié, la grâce d'être délivré, la grâce d'avoir une éternité avec notre Dieu. La grâce. Il y a une sœur qui, dans la prière, eh bien, a introduit sa prière avec le texte de Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5, et je vous invite à le relire. C'est bon de se rappeler Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Elle a été plus loin, je m'arrêterai au verset 5, pour rappeler cette grâce qui nous a été accordée. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » La grâce du salut. Voilà, se rappeler que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Il nous a tant donné. La grâce. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Et quand je parle de la grâce, j'aime bien rajouter ce mot. Non seulement nous n'avons pas mérité, mais nous avons démérité. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, des vérités. Et j'aime bien ce mot, pour moi, il est très parlant, parce que quand on dit qu'on n'a pas mérité, bon, c'est vrai, on a fait des bêtises, machin, d'accord. On n'a rien fait pour que Dieu nous dise, bon, ben écoute, t'as été un gentil garçon, t'as été une gentille fille, alors je te prends avec moi, écoute, c'est super ce que tu as fait. Non, il n'y avait pas ces œuvres-là. Dieu n'a pas tenu compte de nos œuvres de justice pour nous sauver. Non seulement on n'a pas mérité, mais on a démérité, on a fait tout le contraire. Mais c'est ça qui est pire. On a fait tout le contraire. Et j'aime bien me rappeler ce mot, on a démérité. On a fait tout le contraire. On n'a rien fait pour, mais on a fait tout le contraire. C'est une grâce. Dieu t'a tant donné. Dieu t'a tant donné. Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Il t'a tant donné. Quelle grâce! Tu as démérité. Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Aux Galates, l'apôtre Paul dit ceci, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Dans Tite, chapitre 2, verset 12, il nous est dit, elle nous enseigne la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quelle grâce nous a été faite! Quel cadeau de Dieu! Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu de cette grâce? C'est une injure à cette grâce, eh bien, de vivre comme si que nous ne l'avions pas reçue. Ouais. Première chose qui est importante, eh bien, pour ces Corinthiens, il y en a des problèmes dans cette église de Corinthe, et l'apôtre leur rappelle la grâce qu'ils ont reçue. Et c'est vrai, qu'est-ce que j'en ai fait de cette grâce? Qu'est-ce que je compte en faire de cette grâce? Deuxième chose que l'apôtre relève dans sa salutation, dans sa reconnaissance vis-à-vis de cette église de Corinthe, c'est les dons et les capacités. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7, il dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne les a pas simplement sauvés, le Seigneur, mais il leur a donné des dons, des capacités. Et au regard de ce que nous voulons de lire, a priori, Dieu ne leur a pas donné quelques miettes, avec abondance. Ils ont été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Incroyable. Je ne sais pas si cette église a été autant pourvue que cette église de Corinthe, mais voilà ce qu'il nous est dit. Non seulement le Seigneur vous a sauvé, mais en plus il vous a donné des dons et des capacités. Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Incroyable. On pourrait se dire, après une telle lecture, avec de tels dons, une telle richesse, une telle abondance de dons et de capacités, même des dons miraculeux, extraordinaires, pour dire ça doit être une église, mais alors, et des chrétiens affermis et tout ça, mais on connaît la suite de la lettre. Hein. Oh là! Et on se rend compte que Dieu nous a donné beaucoup aussi en dons et en capacités, et ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Dieu t'a donné beaucoup. Qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Regardez ce qu'il dit dans cette même lettre au chapitre 3, verset 1, justement quand on dit avec de tels dons, c'est une église formidable. Spirituelle, forte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, Ce n'est pas comme à des hommes spirituels, quoi ? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comment est-ce possible ? Ben si, c'est possible. La preuve en est. Ils ont reçu des dons et des capacités en grand nombre, mais il n'en reste pas moins qu'ils en sont restés, eh bien, des enfants spirituels, des bébés en Christ. Ils ont, si je puis dire, détourné ces dons et ces capacités que Dieu leur avait données pour eux-mêmes. Quel dommage ! Quel dommage ! En tout cas, à Strasbourg, je sais, des fois, pour certains frères, certaines sœurs, je dis « Oh là là ! Mais toutes les capacités, tous les dons qu'elle a !» Et en même temps, je dis « Oh là là, c'est inexploité. C'est inexploitable !» À cause de choix, à cause d'orientation, à cause de mauvaises habitudes. Oh. Et pourtant, je vois tout un potentiel incroyable. Et c'est une souffrance de dire « Oh, il y a là dans l'Église des hommes et des femmes capables, mais on ne peut rien en faire. C'est pas possible. Ah. » Et des fois, je dirais, quand je pense à l'un ou l'autre, je me dis, j'en suis presque jaloux. Quand je vois la facilité qu'ils ont dans tel ou tel domaine, je dis, mais moi, j'ai pas ça. Oh, et je dis, là, il y a quelque chose de précieux. Et ben voilà, oui. Ce n'est pas exploité, et c'est même inexploitable à cause d'orientation de vie, de choix, d'habitude, de comportement, et bien que certains frères et sœurs ont, et qui font que, malgré tout ce que Dieu leur a donné, eh bien, ce n'est pas utile, utilisable. Oui, Dieu t'a beaucoup donné en dons et en capacités. Qu'est-ce que tu en as fait et qu'est-ce que tu vas en faire? Troisième et dernière chose, son amour indéflectible. Son amour indéflectible, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, son amour indéflectible, Dieu nous a donné. Avant même que l'apôtre Paul parle de ces sujets graves, sérieux, eh bien, dans cette église de Corinthe, il rappelle que l'amour de Dieu est indéfectible. Il vous affermira. Son amour n'a pas changé. Dans l'attente de son retour, il vous affermira. Les Corinthiens, du fait de la grâce qui leur a été accordée pour le salut, des dons multiples qu'ils ont reçus, ils se croyaient parvenus. Regardez, si vous avez envie, avec moi, prenez 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10. Voilà un peu la description, peut-être un petit peu ironique. Je soupçonne un tout petit peu d'ironie, eh bien, dans les mots que l'apôtre Paul leur adresse, 1 Corinthiens 4, versets 8 à 10. « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Je soupçonne un tout petit peu d'ironie. Vu tous les problèmes qu'il y avait dans cette église, je soupçonne un tout petit peu d'ironie. Ils se croyaient parvenus. Ils avaient reçu la grâce de Dieu, ils avaient reçu des dons à foison. Mais voilà, tant de problèmes dans des vies personnelles, tant de problèmes dans la vie de l'Église. Et c'est des fois ce que l'on peut constater chez les chrétiens. Ils sont sauvés, ils ont accepté Christ, ils ont des dons et des capacités, mais voilà. On reste sur ce socle et puis voilà, tranquille. C'est bon, je suis sauvé. J'irai pas en enfer. Ouf, j'ai sauvé ma peau. Tranquille. Ah. Et puis on se repose là-dessus et tranquille, on continue sa vie tant bien que mal. Et on a oublié la perspective. On a oublié la perspective. Si Dieu nous a sauvés, c'est pas simplement pour que nous n'allions pas en enfer, mais il y avait une perspective. Une perspective éternelle. C'est ce qu'il nous dit. Hein? Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, on oublie des fois la perspective que, eh oui, mais je dois rencontrer mon Seigneur. J'ai reçu son salut, il m'a donné des dons et des capacités, mais on oublie des fois la perspective. C'est que je vais le rencontrer, ce Seigneur qui m'a sauvé. Ce Seigneur qui m'a donné des dons et des capacités, je vais le rencontrer. Et souvent, on se repose sur ce socle, socle important, je ne veux pas le dénigrer, oh là là, bien évidemment, mais voilà, j'ai sauvé ma peau, et puis bon, ben, c'est bon, tranquille. Maintenant, bon, je continue tant bien que mal, j'ai fait l'essentiel. C'est vrai que nous avons fait l'essentiel, mais il ne faut pas oublier la perspective finale. Et c'est pour cela que tant de chrétiens, oubliant la perspective finale, qui est aussi un grand cadeau que Dieu nous accorde, de pouvoir passer une éternité avec lui, dans sa présence, eh bien, on l'oublie et on mène une vie, des fois un peu légère, se permettant quelques écarts. Oui, je vous invite à vous rappeler ce matin ce que Dieu aussi vous a donné dans ce sens-là. Une éternité avec lui. La perfection pour le retour, eh bien, dans la présence de Christ. La communion avec son Fils unique. Et il termine avec ce verset de notre passage, « Dieu est fidèle ». Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Son amour est indéfectible. Oui, bien que dans cette église de Corinthe, oh là là, il y avait des choses à remettre dans le droit chemin, à rééquilibrer les horloges, des choses graves, mais Dieu est fidèle. Son amour est indéfectible. L'amour du départ, c'est l'amour jusqu'à la fin. Et quand bien même nous se serions peut-être un peu relâchés, un peu écartés, son amour demeure. Dieu t'a tant donné. Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Et je rappelle, la grâce du salut. La grâce du salut, nous avons démérité. On n'a rien fait pour, mais en plus, on a fait tout le contraire. Il nous a donné des dons et des capacités. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que je compte en faire? Et puis, son amour est indéfectible. Cet amour qui nous a sauvés, qui nous a donné des dons, eh bien, qu'est-ce que j'en ai fait? Et c'est la pensée que je veux vous laisser ce matin. Dieu t'a tant donné. Qu'en as-tu fait? Qu'en feras-tu? Amen.